Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Quand je serai grande, je serai astronaute.
Moi, quand je serai grande, je serai actrice.
Bienvenue sur Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Nous sommes deux amis, Ulrich et moi, c'est Priska. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités les problématiques liées au racisme et aux discriminations que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes vivent de la maternelle au banc des grandes écoles. Cet épisode a été enregistré le 26 mai 2021. Mon invité, Anthony Vincent, est journaliste culturel. Il a travaillé pour plusieurs médias tels que Grazia, Le Figaro, Têtu, Les Inrecuptibles, Vanity Fair et bien d'autres. Il coanime avec la journaliste Douce Di Bando le podcast intersectionnel Extimité, puis crée chez Mademoiselle le podcast Matières Premières pour en découdre avec les étiquettes dans la mode et la beauté. En 2022, il lance l'émission Le JT Mode sur Twitch. Anthony a accepté de partager au micro des Enfants du Bruit et de l'Odeur son expérience de la scolarité et les injonctions auxquelles il a fait face, le racisme intériorisé et le manque de diagnostic de la neuroatypie chez les enfants racisés. Durant cette conversation, Anthony a pointé l'effacement des designers noirs qui ont contribué au rayonnement de la mode en France. Alors prenez place et bonne écoute.
Bonjour Anthony, comment ça va?
Bonjour Priska, ça va très bien et toi?
Bah écoute, super, vraiment contente et honorée, on va dire, de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Je voulais te dire un énorme merci d'avoir accepté d'être là.
Bah, plaisir et honneur partagé, merci beaucoup pour l'invitation.
Je vais te demander de dire un peu qui tu es, de dire ce que tu fais pour les personnes qui nous écoutent, les auditorices du podcast.
C'est un gros blanc que j'ai actuellement, je ne sais plus qui je suis. Je m'appelle Anthony Vincent, j'ai 27 ans, je suis journaliste mode à Paris. Mm-hmm. Je viens de rejoindre l'équipe de Mademoiselle, un média féminin et féministe en ligne. Mm-hmm. Et avant ça, j'étais pigiste freelance dans la mode, la beauté, les questions d'identité en général. Et je suis aussi le cofondateur du podcast natif indépendant Extimité, que mm-hmm. j'ai cofondé avec Douce Di Bando, mm-hmm. qui existe depuis l'automne 2018 maintenant, mm-hmm. donc il va avoir 3 ans. Et c'est un podcast sur les personnes minorisées en raison de leur identité de genre, leur sexualité, leur handicap physique ou mental, par exemple. Mm-hmm. Donc ces personnes à l'intersection de plusieurs formes d'oppression à la fois racontent leur vécu pendant une heure environ par épisode, c'est des témoignages. Et avec le recul sur leur expérience, elles nous en apprennent sur les violences structurelles. Et c'est hyper intéressant et enrichissant, j'espère. Mmh. Et voilà, c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
Je voulais d'abord te féliciter aussi pour ce podcast parce que j'ai eu l'occasion de l'écouter et je l'ai écouté d'une traite. Ulrich l'a aussi écouté et vraiment, enfin, bravo. Enfin, et à partir du moment où j'ai écouté plus particulièrement ton épisode, je me suis dit, il faut absolument qu'Anthony vienne.
Merci beaucoup. Je partagerai le mot à Douce. C'est un travail d'équipe. De longue ouais. haleine, donc merci, ça
bravo
nous touche.
À vous deux.
Merci.
Et du coup, Anthony, est-ce que tu peux me parler de ton enfance et de qui tu es?
C'est vertigineux comme question. Je me rappelle, est-ce que j'ai beaucoup de souvenirs? Je ne crois pas. Je pense que mes premiers souvenirs, c'est peut-être vers 2-3 ans, mm-hmm. à la naissance de mon petit frère. Donc, je suis née de deux parents martiniquais qui mm-hmm. se sont rencontrés dans l'Hexagone, mais sont nés en Martinique et se sont rencontrés, oui, à la vingtaine. À Antony, mm-hmm. la ville en banlieue sud dans laquelle je suis né et dans laquelle j'ai grandi. Mm-hmm. J'ai une grande sœur qui a 6 ans de plus que moi et un petit frère qui a 3 ans de moins que moi. Et je pense que c'est autour de sa naissance que proviennent mes premiers souvenirs. Mm-hmm. Je pense que j'étais un enfant relativement sage. En tout cas, c'est ce que ma mère me raconte souvent, que j'étais assez facile à gérer dans la petite enfance. Je me rappelle aussi d'avoir grandi dans un foyer plutôt aimant. Et j'étais peut-être assez proche de mon petit frère, qui avait un âge assez similaire au mien. Et sinon, à l'école, ça se passait relativement bien. Et voilà, enfin, j'ai vraiment assez peu de souvenirs, si ce n'est, oui, adorer les livres. Je crois que l'un de mes premiers soit à Noël, c'était le don de la lecture que j'ai demandé à mes parents. Et voilà, c'était pas si facile à demander au Père Noël que ça. Et voilà, je me rappelle aussi un truc que j'ai appris récemment, par exemple, c'est que mon enseignante, l'une de mes enseignantes de maternelle m'a fait redoubler la grande section parce que j'avais commencé l'école trop tôt.
D'accord.
Avec un an d'avance à la maternelle parce que ma mère avait besoin de solutions de garde en fait. Et du coup j'ai passé 4 ans en maternelle parce que j'étais trop frêle et trop petite après ma maîtresse pour rentrer en CP.
D'accord.
Et voilà, donc j'ai fait 4 ans de maternelle. Et sinon, ce que je peux dire aussi, c'est que oui, je réclamais tout le temps d'apprendre à lire à ma grande sœur, à mes parents et tout. Et ils voulaient pas, parce que les profs étaient contre, en fait, apprendre à la maison. Ils voulaient que ce soit fait dans les règles de l'art à l'école. Mm-hmm. En tout cas, dans mon cas particulier. Et voilà, ça, c'est un peu mes premiers souvenirs, quoi. Être très, très intrigué par la lecture. Et être assez sage. Sinon, je me rappelle aussi, ouais, que dès peut-être la maternelle, alors que théoriquement, on a souvenir, ou dans l'imaginaire collectif en tout cas, que c'est très très séparé entre les garçons et les filles, j'ai l'impression d'avoir traîné dès la maternelle avec des garçons et des filles. En tout cas, ça c'est sûr, en primaire, c'était comme ça, quoi.
C'était pas scindé. C'était pas des garçons d'un côté, les
filles... Si, c'était scindé, mais dans mon groupe d'amis, c'était mélangé. Et voilà, je pense que j'ai toujours apprécié cette mixité de genre, sans me l'avouer comme tel, hein. J'aimais pas ces propos-là à l'époque. Mais ouais, j'avais autant de filles que de garçons dans ma bande de potes, et j'adorais ça. Enfin, je me l'expliquais pas comme ça, évidemment, mais c'était comme ça que je trouvais mon équilibre, ouais, je pense.
Comment c'était en ta relation à la famille, relation à la fratrie et à tes parents?
Je pense que avoir une grande sœur qui était réputée très studieuse, très sérieuse, m'a mis une forme de pression, peut-être. Enfin, le terme est un peu fort, mais en tout cas, ça a placé la barre haute. Je savais que j'avais intérêt à exceller à l'école. Dès le CP d'ailleurs, j'ai été inscrit au conservatoire pour suivre des cours de solfège, mais aussi du piano, alors que je voulais faire du saxophone, mais mes parents ont dit non. C'était le piano comme ma sœur.
Et pourquoi non pour le saxophone?
Parce qu'on avait un piano droit à la maison, en fait. Je pense que mes parents avaient peut-être fantasmé l'idée d'une éducation très bourgeoise, donc même si on n'avait pas forcément le milieu, le train de vie qui allait avec, ni les salaires qui allaient avec, en tout cas au début... En tout cas, on avait un piano droit à la maison et mes parents nous ont inscrits très tôt à des activités extrascolaires, ma sœur et moi. Donc, ma sœur, d'emblée, ça a été le piano, le solfège, la danse classique aussi. Et moi, au CP, ça a été le solfège, et pas tout de suite le piano parce que j'étais vraiment nul en solfège. Mais il y avait un piano droit à la maison et je devais y passer. Donc, j'ai appris à lire la musique avant de savoir lire des mots, quoi. En tout cas, en même temps, l'apprentissage s'est fait en parallèle et j'ai fait du judo dès le CP. Ensuite, pendant ma primaire, ouais, ça s'est développé comme ça. J'ai fait du judo, du karaté, de la natation, du piano. C'est étrange, mais j'étais très migraineux assez jeune. D'accord. Et mes parents disaient non, le tennis, c'est pas fait pour toi. Tu vas avoir trop mal à la tête. D'accord. Ce qui était sans doute vrai, hein, parce que j'étais vraiment extrêmement migraineux, enfin, de manière relativement absurde. Mais je pense que c'était juste que j'avais besoin de lunettes. Mais bref. Mais ça, d'ailleurs, c'est intéressant aussi. Il y a peut-être des erreurs de diagnostic qui sont faites... quand on est un petit garçon ou en tout cas un enfant en bas âge et quand on est peut-être racisé par le milieu médical, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne repère pas. Je pense qu'il y avait peut-être aussi des problèmes de dyscalculie, des choses comme ça que j'avais et que aujourd'hui je me rends compte que mes problèmes en mathématiques étaient peut-être dus à une forme de neuroatypie, donc au fait que mon cerveau peut-être fonctionne différemment de la moyenne des personnes. Mais en tout cas, oui, il y a des choses qu'on ne m'a jamais diagnostiquées. Aujourd'hui, je me pose des questions, mais il faudrait que j'aille voir des spécialistes pour savoir si c'est le cas. Je soupçonne peut-être d'avoir une forme de dyscalculie ou de dyspraxie, ce qui peut ressembler à une forme de dyslexie concernant le repérage dans l'espace, se spécialiser, se rendre compte de la place qu'on occupe dans l'espace ou la logique par rapport aux mathématiques, etc. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça où mes parents repéraient des problèmes d'équilibre. En termes de physique, hein, je tenais difficilement debout. Enfin, je tenais debout. Je savais marcher, je savais courir, mais je tombais facilement. D'accord. Des trucs comme ça. Et donc, le judo, c'était aussi pour m'apprendre à chuter, à tomber correctement, pour pas trop me faire mal, parce que clairement, mes parents ont remarqué que je tombais tout le temps, quoi. Mais à aucun moment, ils se sont dit peut-être que c'est un trouble moteur ou des choses comme ça, quoi.
Pourquoi, à ton avis, il y a un problème de diagnostic chez les enfants racisés?
J'ai l'impression, et je pense qu'il y a plusieurs études qui peuvent confirmer ça, plutôt du côté du Royaume-Uni et des États-Unis. On manque de statistiques et de données concernant les personnes racisées en France, parce que c'est très compliqué d'obtenir des statistiques ethniques en France. Mais oui, en fait, on est sous-diagnostiqué en tant que personne racisée en général, parce que souvent, en fait, on se dit juste que, bah, c'est nous le problème et c'est pas forcément un trouble du développement moteur ou psychologique, mmh. ou pas forcément un trouble, en fait, juste une variation du vivant, mmh. on va avoir beaucoup plus de facilité à diagnostiquer une personne blanche comme étant dyslexique ou bien autiste mmh. qu'une personne racisée, je pense. Notamment parce que oui, dans l'imaginaire collectif, on n'imagine pas qu'une personne racisée puisse être dans le spectre de l'autisme mmh. ou de la dyslexie ou des choses comme ça. Et ce sous-diagnostic-là, oui, c'est une question d'imaginaire raciste, en partie. Mmh. Et aussi, peut-être, une manière qu'ont les personnes racisées de compenser mmh. énormément. Elles ont l'habitude de compenser leurs lacunes intellectuelles, psychologiques, physiques, parce que la société leur fait pas de cadeaux, en fait. Mmh. Et donc, oui, je pense que toute ma vie, j'ai compensé beaucoup, beaucoup de mes lacunes en faisant comme si de rien n'était, afin de continuer à performer, en fait, une forme d'exemplarité, de perfection de façade, quoi.
Mmh. Et du coup, ça coûte quoi, en fait, ça, cette performance, le fait de d'être exemplaire régulièrement, ça, est-ce que ça, d'ailleurs, est-ce que tu trouves que ça coûte quelque chose? Est-ce que ça engendre des choses chez toi?
Oui, je pense que c'est une injonction à l'exemplarité qui peut être assez lourde à porter et qui crée une forme de stress permanent, une forme de stress minoritaire, d'ailleurs, en termes de psychologie sociale.
Qu'est-ce que tu appelles stress minoritaire, justement?
C'est une forme de, je sais pas comment appeler ça, c'est une forme de pression qu'on subit en permanence en sourdine, dans mm-hmm. un coin de la tête, ou qui est même pas forcément consciente, qui fait que on est toujours en train de se corriger mm-hmm. dans une forme d'hypercorrection ou de dépersonnalisation afin de performer, justement, ce que la société, ce que le regard social attend de nous. Donc, mm-hmm. Ça peut être, oui, se montrer exemplaire, faire attention à la façon dont on s'habille, dont on se déplace dans l'espace public pour ne pas susciter la crainte, la méfiance, des choses comme ça. Surtout quand on a un homme racisé mmh. comme noir ou arabe, perçu mmh. comme noir ou arabe. Et ben, ça peut être hyper lourd, en fait. Ou alors même inconsciemment, une sourdine, une forme de pression en sourdine qui est là de manière diffuse. Et je pense que ça me coûte, que c'est pas invivable, mais ça fait que je suis jamais totalement relâché. Mmh. Et ça, c'est lié à d'autres choses chez moi, mais je pense que ça peut être rapproché de ce qu'on appelle de l'hypervigilance. Donc ça fait qu'on est toujours sur nos gardes, en fait, qu'on est toujours prêt à réagir, prêt à se défendre, pas forcément se défendre en étant sur la défensive, mm-hmm. mais se défendre d'une accusation, mm-hmm. à tort, par exemple. Mm-hmm. Parce que oui, on a l'habitude d'être suivi par un vigile quand on est dans un magasin. Oui, on a l'habitude d'être davantage grondé par la maîtresse. Oui, on a l'habitude d'être contrôlé davantage que les autres, en fait. Mm-hmm. Et ce contrôle, on finit par l'intérioriser. Mm-hmm. On commence par l'intérioriser.
Mais est-ce que, en tant qu'enfant, tu as eu l'impression d'avoir déjà eu conscience de ça? Est-ce que tu avais conscience du regard social sans le définir comme tel? Mais est-ce que tu avais conscience de ce qu'on attendait de toi et de ce que la société, en fait, te prêtait?
Je pense que c'est quelque chose dont je n'ai pas pris conscience par moi-même directement. C'est quelque chose que mes parents m'ont inculqué mmh. explicitement mmh. En me faisant comprendre dès pas la petite enfance, mais en tout cas vers la primaire. Mmh. Que j'étais un petit garçon noir et qu'il fallait qu'il en fasse 4 fois plus que les autres, ou au moins 2 fois plus pour obtenir la moitié de ce que les autres avaient, en fait. Et je me rappelle, par exemple, d'avoir regardé la série Scandal, qui est produite mm-hmm. par Shonda Rhimes, où à un moment, Olivia Pope, l'héroïne, s'entend dire par son père, je t'ai toujours dit qu'il faut que tu en fasses 4 fois plus que les autres pour avoir la moitié de ce que les autres ont. Et ben, les autres, c'est qui? C'est les personnes blanches, en fait, mm-hmm. en l'occurrence, les personnes qui sont racisantes et non racisées dans notre société. Et ben, justement, c'est à ce moment-là, précis de cette série, je me souviens avoir tremblé parce que ça m'a rappelé des choses que mes parents m'ont dit, en fait, et répété à longueur de journée, pas forcément comme un rappel à l'ordre violent, agressif, mais plutôt comme une mise en garde, en fait, une espèce de précaution ou de consigne de mode de vie, de mode d'emploi pour exister dans l'espace public, et social et scolaire, etc., quoi. Et donc, ça a été d'abord des remarques de mes parents, oui, voilà, pour une consigne à suivre, en fait. Ensuite, à l'école, je me le suis pas représenté comme tel, mais peut-être que j'avais déjà eu l'impression diffuse que mes professeurs me surveillaient davantage que la moyenne. Mmh. Et je me rappelle aussi de remarques lors des activités extrascolaires, justement, à me sentir être la seule personne noire dans la classe de solfège, la seule personne noire dans mes leçons de piano, la seule personne noire dans mon club d'échecs aussi. J'ai oublié que je faisais un club d'échecs à une période de ma vie. Et justement, j'ai arrêté au bout d'un an. Non pas parce que je n'aimais pas, mais parce qu'un jour, je me rappelle avoir dit que je pouvais pas aller à un truc pour l'école. Je peux pas, j'ai un club d'échecs. Mmh. Et en fait, je me souviens de la classe qui explose de rire en disant, mais mon Dieu, mais comment il fait trop l'intello et tout. Mmh. Et ça m'avait trop choqué. Et en fait, on m'avait dit, je crois que quelqu'un m'a dit, ouais, les noirs, ça fait pas d'échecs. Mmh. Et je me rappelais à peine de ça. Et mais je crois que ça, en tout cas, à l'époque, ça m'avait marqué. Mmh. Et j'avais demandé à mes parents de me désinscrire pour l'année d'après. Mmh. Parce que je voulais plus, en fait. Parce que je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas moi. Mmh. Je peux pas faire d'échecs. Et mmh. j'ai pas dit parce que je suis noire, mais je me souviens que cette moquerie à l'école m'avait fait comprendre que c'était pas fait pour moi et mmh. que c'était ridicule d'en faire. Et du coup, j'ai demandé à être désinscrit, quoi. Mmh. Mais en tout cas, même ça, d'ailleurs, c'est intéressant que mes parents, je crois même pas avoir demandé à faire des échecs, en fait. C'est mes parents qui surperformaient la bourgeoisie. tu feras du piano, des échecs, mon fils, quoi.
Mmh. Et pourquoi, à ton avis?
Dans un enjeu de respectabilité, en fait, d'hyper-respectabilité, où en fait, notre enfant sera propre sur lui, on va l'habiller chez tout compte fait, et du pareil au même, et il mettra des petits pantalons en velours côtelé, et il fera des échecs, du piano, et il sera sage comme une image, il ira à la natation et au judo, et voilà, enfin, c'est...
Il montrera patte blanche.
Exactement.
Par rapport à tes parents, ça se passait comment? Tu discutais comment de tout ça avec eux? Est-ce qu'il y avait une conscientisation?
Mes parents m'ont pas dit à cause du racisme tu devras en faire deux fois plus que les autres, mais ils m'ont plutôt dit en fait pour réussir il faudrait que t'en fasses deux fois plus que les autres. Ils m'ont pas dit parce que t'es noir.
Mais eux-mêmes, est-ce que t'avais l'impression que tes parents avaient vécu par exemple des situations de racisme?
En fait, je pense qu'il y a un truc assez particulier en tant que famille caribéenne en France hexagonale. Et par rapport à une rivalité qui serait entretenue de façon plus ou moins artificielle, raciste et coloniale avec les personnes noires d'Afrique subsaharienne, cette rivalité qui est donc relativement artificiel encore une fois, fait que ma famille entière a pu entretenir une forme de supériorité par rapport aux personnes noires subsahariennes. Et j'ai grandi dans un quartier populaire de banlieue sud parisienne où il y avait beaucoup de personnes entières, mais aussi beaucoup et beaucoup plus de personnes noires d'Afrique subsaharienne. Mmh. Et donc, je me souviens de micro-remarques de mes parents qui ne voulaient pas explicitement racistes, mais qui l'étaient en soi, faisant comprendre qu'on était supérieur aux personnes noires d'Afrique subsaharienne. Mmh. Et en fait, je crois que mes premiers souvenirs de racisme, c'était plutôt trouver mes parents racistes, en fait. et voilà, enfin, c'était des remarques par rapport aux personnes noires d'Afrique subsaharienne, mais c'était aussi des remarques négatives par rapport aux personnes nord-africaines et aussi des remarques négatives par rapport aux personnes asiatiques. Ou pas forcément négatives, mais de l'ordre de la minorité modèle, à savoir la minorité qui a réussi à s'assimiler, qui a réussi à se rendre respectable et donc qu'il faudrait émuler. Mais dont on se moque aussi un peu parce qu'elle est un peu trop scolaire, quoi. Et donc ces remarques-là, je pense que j'ai un peu baigné dedans et c'est mes premiers souvenirs du racisme, en fait, mine de rien. Après, est-ce que mes parents ont souffert de racisme? Bah, je présume que oui, mais c'est pas des choses dont ils se plaignaient à la maison explicitement.
On n'en parlait pas.
Ils ne parlaient pas du racisme qu'ils pouvaient subir explicitement. Après, je me rendais compte de micro-situations où j'avais l'impression que c'était du racisme. Par exemple, toujours dans cette espèce de carte postale de la bourgeoisie, wannabe bourgeoisie que mes parents affectionnaient, c'était mon père qui voulait absolument avoir une Mercedes et qui a fini par s'offrir une Mercedes parce que sa carrière lui a fini par permettre de le faire. Et je me souviens être sur les routes à l'arrière de la voiture. Et on est arrêté par la police qui nous contrôle toute la famille. Pas toute la famille, mais en tout cas mon père, sa carte grise et tout. Et on repart en roulant après avoir subi des remarques un peu bizarres des policiers. Je me rappelle plus exactement des remarques, mais je me rappelle juste de mon père qui dit « Ah là là, tout ça c'est parce qu'on est noir et qu'il supporte pas de voir des noirs réussir. » Et je lui avais dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Et il m'avait dit « Bah on est une famille noire qui a l'air sur la route des vacances en Mercedes et ils ont pas supporté quoi. » Et je me dis « Oulala, se tirer par les cheveux tout ça ?» Et en fait... A posteriori, je me dis, peut-être que ce moment précis, dans cette situation précise, peut-être que c'est tiré par les cheveux, mais en tout cas, c'est peut-être un symptôme, ou en tout cas, une manifestation possible de ce qui peut subir par ailleurs, et voilà, après, tu finis par surinterpréter tout, parce que justement, le racisme est structurel, en fait, et il te fait tout interroger, mais parce que peut-être que ce que tu subis au travail ou dans l'espace public, bah, t'as l'impression que ça se manifeste aussi dans d'autres situations, et voilà.
T'as raconté dans un des épisodes que tu t'étais pincé le nez pendant super longtemps.
Ah oui, c'est vrai.
Pour pouvoir, en fait, ne pas avoir le nez
épaté.
Donc, c'est quelque chose qui moi, personnellement, m'a marqué, en fait.
Tes parents t'ont jamais dit ça?
Non, mais ça m'a marqué, en fait, vraiment. Mais...
Bah, je sais pas à quel point c'est commun, mais oui, effectivement, mes parents m'ont fait... Encore une fois, oui, le racisme dont j'ai pu être témoin, c'était plutôt de mes parents vis-à-vis d'autres personnes noires et d'autres personnes racisées, en fait. Mmh. Et notamment du racisme peut-être intériorisé, où mes parents, très jeunes, m'ont fait comprendre « cache tes dents quand tu ris » et « pince ton nez pour qu'il soit le plus menu possible, en fait. Pour ne pas avoir le nez épaté, pour ne pas avoir les traits négroïdes.
Mmh. » Donc, tu te pinçais le nez?
Je me pinçais le nez, je me rappelle pas depuis quel âge, mais oui, peut-être depuis que j'avais 4-5 ans. Je me pinçais l'arête du nez. Pas les narines,
oh oui.
Pas les narines au point de ne pas pouvoir respirer, mais au-dessus, au niveau du bridge of the nose, genre le pont, l'arête, pardon, au niveau de l'arête du nez, afin de, oui, d'avoir le nez le plus fin possible, en fait. Et le truc des dents aussi, ça m'est resté. Et en fait, récemment, un ami dentiste me faisait comprendre que les personnes noires avaient davantage tendance à avoir les dents du bonheur.
Ouais.
Et effectivement, c'est un truc qui faisait... mes parents ne m'ont jamais dit texto, mais je crois qu'ils avaient très peur que j'ai les dents du bonheur, quoi.
D'accord, bon, ça.
Et ça, a posteriori, je me dis, ouais, ça sent un peu le racisme intériorisé, quoi. Mm-hmm. Après, je suis pas dans leur tête et ça les regarde, mais aujourd'hui, ouais, je me cache encore les dents quand je rigole et j'ai encore l'impression d'avoir un nez énorme et voilà.
D'accord, donc c'est quelque chose quand même que t'as intériorisé même à l'âge adulte aujourd'hui, quoi.
Ah ouais, c'est clair. Après, je pense que je suis peut-être un peu dysmorphophobique, mais clairement, je me rappelle très bien de la hantise de mes parents vis-à-vis des traits très négroïdes.
Wow.
Et de certaines remarques de ma grand-mère maternelle quant aux traits négroïdes, en fait. Mmh. Enfin, des blagues sur les gens qui ont des gros traits, des choses comme ça. Bah, ça m'est resté, en fait. La peur d'avoir un nez ou des grosses lèvres ou des traits épatés qui faisaient très noir, en fait. Mmh. Et ça aussi, c'est une espèce de peur raciste, encore une fois. Une peur négrophobe, en fait. Enfin, on peut être noir et négrophobe par rapport aux personnes noires d'Afrique subsaharienne fantasmées comme ayant les traits beaucoup plus gros, épais et tout, alors que c'est un gros amalgame aussi.
Mais est-ce que c'est pas justement dû à des images comme Banania, comme ce genre de choses qui auraient pu être perçues tout simplement petit? Et comment aussi tu fais pour te construire en tant qu'enfant noir au sein d'une famille qui te dit qu'être noir, c'est... ouais, il faut effacer en fait tout ça.
Oui, peut-être que c'est aussi dû à des références qu'on peut croiser dans les dessins animés ou les images de pub comme Banania. D'ailleurs, c'est le chocolat de mon enfance, hein, le chocolat que j'ai pu faire au petit déjeuner. Et oui, je pense que ça a joué, mais sans doute moins que les remarques de mes parents. Mmh. Et ces remarques de mes parents, je pense pas qu'ils en soient les vilains auteurs. Je pense qu'ils en sont aussi les victimes, en fait. C'est des choses qu'eux-mêmes ont intériorisées. Et c'est pour ça que je parle de racisme intériorisé. Et je pense que c'est très triste, en fait, aussi pour eux et elles. Et j'espère que ça va changer pour les générations futures. Et voilà, je pense que mes parents continueront à trouver les gros nez vilains, mais c'est trop tard pour eux.
Aujourd'hui encore, en fait, ils ont ce type de...
Bah, je les écoute plus à ce point pour savoir s'ils tiennent encore ce genre de propos. Et je pense que ça se dissipe un peu. Mm-hmm. Mais parce qu'en fait, ils savent très bien que ça y est, on est formés, en fait. Enfin... nous pincer le nez maintenant, ça servira plus à rien, donc ils ont plus besoin de faire la remarque, en fait. Mais oui, ça leur arrive encore, surtout à ma mère, en fait, surtout ma mère, de faire des remarques par rapport à quelqu'un qu'elle verrait à la télé, disant oh mon dieu, elle a des gros traits, celle-là, ou des choses comme ça, quoi.
Et du coup, ça t'a fait quoi, toi, de te construire à l'intérieur d'une famille comme ça? Est-ce que t'as eu peur, justement, d'être trop noire?
Oui, pas directement, en tout cas, c'est des choses où... Ma mère avait peur qu'on bronze trop, par exemple, quand on partait en vacances en Martinique, il fallait surtout pas trop bronzer, des choses comme ça. Fallait pas devenir bleu, elle disait. Et ma grand-mère disait aussi. Et voilà, et d'ailleurs, le fait que ça soit plutôt du côté maternel, ça en dit long aussi. Enfin, c'était du côté de ma mère, c'était un peu plus matriarcal, et je pense que la pression esthétique était plus forte. Et peut-être que c'est aussi pour ça que c'était plus important pour elle que du côté de mon père. Et d'ailleurs, du côté de mon père, en fait, ils sont beaucoup plus clairs de peau. C'est des chabins, on appelle ça aux Antilles, donc des personnes assez claires. Mon grand-père paternel, par exemple, il ressemble à un pied noir d'Algérie, en fait, par exemple. Et on dirait, si tu le croisais dans la rue à Paris, tu le prendrais pour un Algérien et pas du tout pour un homme noir de Martinique, par exemple. Et en fait, le fait qu'ils soient plus clairs de peau, peut-être que pour eux, c'était moins grave d'avoir l'air foncé ou avoir des gros traits négroïdes, comme ils disent. Mais tout ça, c'est très, très, très privé et personnel à l'échelle de ma famille. Mais je pense que peut-être que d'autres familles antillaises ou d'autres familles noires en général peuvent se reconnaître dans ce genre de propos, quoi.
Comment a été ton cursus, surtout à partir du collège? Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir eu des orientations? Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait des choses en lien avec la discrimination ou le racisme? Ou est-ce que tu as eu l'impression, toi, d'avoir eu une scolarité tout à fait normale, sans préjugés?
Bah, je pense que j'ai une maternelle et une primaire assez idylliques. En tout cas, la primaire, j'ai tellement adoré. Et a posteriori, j'adore encore. Enfin, je pense pas l'avoir fantasmée non plus. Et je me rappelle justement en primaire avoir eu une prof qui était noire. Et c'était la première prof noire que j'avais eue de ma vie. Et je l'adorais trop. Enfin, elle était hyper sévère. Mais je l'aimais trop. Et je pense qu'elle m'a donné beaucoup de goût aux études, en tout cas. Ça m'a vraiment aidé à apprécier l'école. Après, le collège, ça a été une claque. Je me rappelle dès ma rentrée de 6e, avoir été chahuté et frappé par un camarade de classe. Enfin, même pas la rentrée, la pré-rentrée d'ailleurs. Et voilà, parce que je lisais dans la cour de récré, il a pas supporté, il a dit « ouais, arrête de faire l'impélo et tout ». Et donc, ça m'a saoulé. Et il a voulu qu'on se batte et j'ai dit « non, je suis pacifiste » et il m'a mis à terre. Voilà, et ce mec a continué à me frapper d'ailleurs pendant toute l'année scolaire. Mais bon, bref. Et en fait, j'ai subi beaucoup de harcèlement scolaire au collège. J'étais beaucoup chahuté dans les couloirs, j'étais beaucoup mis à terre, des choses comme ça. On me crachait dessus aussi beaucoup. Et on m'insultait tout le temps. J'avais des surnoms pas jojo. On parlait pas encore tellement de harcèlement scolaire à l'époque, donc je me le disais pas comme ça. Je me disais juste, bon, bah, je suis la tête de Turc et puis ça passera après le collège.
T'as fait comment pour réussir à t'accrocher dans ta scolarité tout en étant harcelé, parce que c'est quand même un poids supplémentaire.
Bah, je pense qu'il y a énormément d'enfants qui subissent du harcèlement scolaire, je suis pas le seul et je leur envoie beaucoup de courage, enfin, parce que ouais, c'est galère. Après, je pense que j'ai aussi vécu dans une génération pré-internet, en tout cas pré-réseaux sociaux, qui a beaucoup aidé et joué. Je pense qu'en fait, le harcèlement scolaire, il commençait à 9h, il terminait à 17h30. Et puis, une fois que je rentrais chez moi, c'était fini, en fait. Ça continuait pas sur Twitter, Instagram et compagnie. Et ça, je pense que j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'imagine pas à quel point ça doit être dur aujourd'hui pour certains jeunes et certaines jeunes. Et aussi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est aussi d'avoir une bande d'amis hyper solide, en fait. Enfin, j'avais des amis très proches et toujours eu, parce que j'ai fait ma maternelle, ma primaire et mon collège dans la même rue. Et j'ai toujours eu les mêmes amis. Et donc, je pense que ça m'a vraiment aidé à avoir à tenir le coup, en fait. Et ça m'a servi de refuge, mes amitiés et le CDI. Et justement, mon refuge, c'était un peu le CDI. Je suis vraiment la caricature du rat de bibliothèque, mais, mais vraiment, ça m'accompagne. Mais en vrai, ça m'a vraiment servi de refuge. Enfin, et d'ailleurs, j'ai même fait partie d'un club de lecture là-bas et tout. Enfin, j'ai vraiment adoré trouver refuge là-bas, en tout cas. Et c'est aussi pour ça, je pense, que je suis si attaché au livre, c'est que ça m'a vraiment aidé à survivre, en fait.
Et tu en parlais à ta famille de ce qui se passait à l'école?
Non, parce que je vois pas ce qu'ils auraient pu faire. Enfin, c'était encore une fois une époque où on formulait pas ça comme étant du harcèlement, ni même du harcèlement scolaire. Du coup, c'était juste, oui, t'es embêté à la cour de récré, et dans les couloirs, et dans les classes, et dans les escaliers, et partout. Mais il faut juste vivre avec, quoi. Enfin, c'est à une époque où on se dit juste, ça fait partie de l'expérience scolaire, et ça va l'endurcir. Et les profs adoraient dire ça. Non, mais c'est rien, c'est des enfants. Et tout ça, quoi.
Régler ça entre eux.
Oui, voilà. Sure. Et donc, le collège, j'ai pas vraiment eu de remarques de la part des professeurs racistes, parce que, en fait, c'était un collège de zone d'éducation prioritaire où il y avait énormément de personnes racisées. Et en fait, ils pensaient tous nos profs pensaient qu'on allait finir en lycée pro ou technique, en filière technique et professionnelle, sauf justement les rarissimes personnes blanches du collège. Non pas forcément parce qu'elles étaient blanches, en tout cas je me le disais pas comme tel, et les professeurs ne le formulaient pas comme ça, mais il s'avère que je traînais avec ces personnes-là. Donc voilà, j'étais le mec qui passait aussi pour un vendu à ce niveau-là. Et voilà, enfin, je traînais avec les intellos qui allaient finir en général.
En fait, j'étais dans une zone d'éducation prioritaire. Toutes les personnes racisées finiraient en professionnel. Mais que même dans ce collège en zone d'éducation prioritaire, les blancs passaient en général. Avaient tendance à passer en général.
Ouais.
D'accord.
Après, je pense que c'est multifactoriel. C'est pas juste les professeurs qui orientent en fonction de la racisation des personnes. C'est donc la race sociale perçue des personnes. Mais c'est aussi peut-être parce que ces personnes blanches bénéficient d'autres privilèges sociaux qui font que c'est peut-être plus facile pour elles de passer en général, par exemple. Il y en avait beaucoup qui avaient des cours particulier ou qui avaient moins de problèmes à la maison et une structure dans laquelle ils pouvaient travailler, en fait, faire leurs devoirs à la maison dans le calme, sans qu'il y ait des petits frères ou des petites sœurs qui les embêtent ou des choses comme ça, quoi. C'est tout ça aussi qu'il faut prendre en compte pour passer en général, si on le souhaite, d'ailleurs, et si les professeurs le permettent. Et en fait, c'est la France aussi qui a tendance à mettre sur un piédestal les filières générales, mais les filières techniques et professionnelles, ça peut être génial si on sait ce qu'on veut faire. Et les métiers de la mode, par exemple, passer en filière professionnelle, ça peut être super. C'est beaucoup plus logique que d'aller faire un bac L. Par exemple.
Les personnes racisées, quand elles passent en professionnel, c'est pas n'importe quel professionnel. C'est peut-être pas en filière de la mode, mais peut-être plus en nettoyage des eaux, par exemple, ou dans certains types de métiers professionnels, tout ce qui est aide-soignant. Enfin, il y a aussi, même dans le professionnel, c'est pas ébéniste. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui pourraient être intéressantes, justement, dans le professionnel, mais qui sont aussi, là, réservées à un type de population. Tu vois?
Le
professionnel qu'on propose aux personnes racisées n'est pas le même que même le professionnel, en fait, qu'on pourrait proposer aux personnes blanches. Et en plus de ça, je perçois aussi certaines personnes qui me disent avoir eu d'excellentes notes et avoir été désorientées quand même vers des filières professionnelles alors qu'elles avaient des 16 de moyenne, par exemple. Et elles ont été envoyées en professionnel là où des personnes blanches dans le même collège avaient des 12 de moyenne et allaient en général. C'est vrai que ça peut être des conditions différentes, mais il y a quand même ce côté où on se dit va travailler parce que... Peut-être que dans ta famille, ils ont besoin que tu travailles, mais clairement, sans même que ça soit le cas, mais que les gens interprètent ainsi.
Oui, il y a énormément de biais racistes dans l'éducation nationale. Enfin, je le nie pas du tout. Quand je dis que c'est multifactoriel, c'est pas du tout mutuellement exclusif. Il peut y avoir les biais racistes du système scolaire qui orientent plutôt les personnes racisées vers des filières professionnelles et techniques, qui mettent le plus rapidement possible aussi sur le marché du travail. Et aussi les conditions de vie à la maison qui font que on peut accepter plus facilement ces filières-là sans même forcément y croire pour soi-même en fait. Et d'ailleurs, j'aurais aimé que ça change avec Internet par exemple, mais il faut aussi avoir les moyens de s'éduquer, de s'informer plutôt sur qu'est-ce qui peut nous intéresser en fait, se dire ah mais il n'y a pas que bac pro technique ou bac pro prévention santé environnement pour faire dans les métiers du care ou la mécanique, etc. Il y a d'autres choses qui existent, peut-être que je suis plutôt fait pour l'esthétique ou bien la mode ou bien l'ébénisterie ou j'en sais rien, mais la menuiserie, mais en fait si on il faut aussi avoir l'espace mental, en fait, enfin, le temps de cerveau disponible pour faire ça, en fait. Et quand on a beaucoup de tracas à la maison, c'est plus compliqué.
Tout à fait.
Et les personnes plus privilégiées socialement, bah, peut-être que oui, leur famille les aide aussi à s'informer et pour mieux s'orienter. Et aussi, je pense qu'il y a aussi un enjeu de respect par rapport aux professeurs, enfin, de relations différentes aux professeurs entre les parents et les profs, je veux dire. Quand un prof va dire peut-être à certaines familles de raciser votre enfant doit faire ça, bah les familles vont dire ok, d'accord, amen, le professeur l'a dit, donc on le fait. Et peut-être que des familles plus privilégiées socialement ont davantage les moyens sociaux notamment de dire bah non, mon enfant va faire du général, bah, point en fait, et c'est non négociable. Et ça, ça se traduit souvent en race sociale aussi en fait, enfin ça coïncide souvent, effectivement. Peut-être que des familles blanches, oui, ont davantage tendance à contester une orientation qu'elles jugeraient non valable pour leur enfant, non suffisante pour leur enfant, pas assez bien pour leur gosse. Et peut-être que des familles racisées, bah, n'osent pas, en fait. Effectivement. Après, en l'occurrence, oui, je pense que j'avais de bonnes notes au collège et mes parents aussi m'ont inscrit dans des options, non pas parce que je les souhaitais, mais parce qu'ils savaient que ça pouvait avoir une incidence sur mon orientation, afin qu'il n'y ait pas de doute. Et donc, on m'a fait faire du latin le plus tôt possible et on a voulu me mettre en allemand. Après, j'ai vraiment contesté. Du coup, on m'a mis en espagnol pour que ce soit avec mes amis. Mais le latin m'a aussi peut-être aidé à aller vers du général. En tout cas, justement, on parlait d'orientation. C'est grâce à ma professeure de latin, et seulement en troisième, que j'ai entendu pour la première fois parler des classes préparatoires aux grandes écoles, plutôt des filières littéraires, donc Hippocagne et Cagne. Et justement, ça, c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler, alors même qu'on avait eu des conseillers d'orientation en classe par le passé, en fait. Et c'est quelque chose dont les profs parlaient pas particulièrement, parce qu'ils disaient, bah, c'est pas pour eux, en fait.
C'est exactement ce que tu dis aussi. Si des parents ne sont pas en plus au courant, n'ont pas le temps de cerveau nécessaire pour pouvoir se renseigner tout sur tout ça, tu as aussi énormément d'enfants et de parents qui passent à côté d'autres filières, d'autres possibilités, et même dans le professionnel du coup.
Oui, oui, même dans le professionnel. Et puis, même du côté général, en fait, il y a des familles, notamment de personnes racisées, qui se disent, bon, bah, les métiers qui diplôment bien et qui valent la peine, c'est avocat, médecin et basta. tu vas pas aller faire des trucs de prof, érudit, ça sert à rien, ça paye pas les factures. Donc, va faire des métiers qui rapportent et qui ont une grande validation sociale, deviens médecin, banquier ou avocat, quoi.
Mais clairement, ouais, on a toi. Peut-être pas toi, mais moi, j'ai déjà entendu petite, non, mais alors tu feras médecin, tu feras, voilà. Et quand j'ai fait mes études de psychologie, ma mère, elle m'a dit, c'est psychiatre? Pourquoi pas psychiatre? Pourquoi psychologie?
Pourquoi tu vas pas en médecine?
Non, mais c'est ça.
Pourquoi tu vas pas faire le vrai truc? Oui, il y a les métiers qui sont valorisants, crédibilisants socialement et rémunérateurs aussi. Mmh. Et sûrs. Mmh, et ça. Les métiers qui sont perçus comme artistiques, de gens qui s'ennuient et qui ont du temps et...
Et nous, on n'a pas le temps, en fait. Ouais. La vie est trop dure, t'as pas le temps.
Mais en fait, c'est ça qui est triste. Enfin, on en rigole là, mais c'est... Est-ce qu'on a le temps, le loisir de se réorienter, ou bien de se chercher, ou bien de tâtonner, ou bien d'avoir un métier qui n'est pas forcément très rémunérateur? Est-ce qu'on a les reins solides, financièrement, d'un point de vue patrimonial aussi, pour faire des carrières peut-être plus risquées? En fait, c'est le droit au risque aussi. Bah ça, on l'a pas, en fait. Enfin, on est peu à l'avoir, en tout cas. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un article de New York Times, il y a peut-être 5-6 ans, sur pourquoi est-ce qu'il y avait une génération d'un coup, en tout cas, ça semblait être une apparition, une génération de designers asio-américains dans la mode. Et en fait, ils se rendaient compte que oui, en fonction des vagues d'immigration successives, bah peut-être que là, ça faisait 2-3 générations qu'il y avait eu 2-3 générations de personnes asio-descendantes installées aux États-Unis qui avaient fait des carrières réputées comme sûres en médecine ou dans le droit ou des choses comme ça. Et qu'enfin, au bout de 2-3 générations, les parents laissaient enfin un peu de lest à leurs enfants pour qu'ils fassent des carrières plutôt risquées, notamment dans les filières artistiques. Et c'est pour ça que peut-être on pouvait expliquer en partie, en tout cas, pourquoi il y avait autant de... ce qui semblait être un boom de créateurs asio-descendants aux États-Unis. Et en France, bah effectivement, j'attends encore des créateurs afro-descendants, par exemple, qui exploseraient dans le luxe. Et je pense que c'est pas du tout anodin. C'est les rares... Je parle beaucoup de la mode parce que je travaille dans la mode aujourd'hui, mais le rare créateur français noir dont on se souvienne, c'est Olivier Rousteing, et il est adopté, en fait, par une famille blanche bordelaise. Ça veut tout dire, déjà. Et sinon, historiquement, il y en a eu d'autres, mais c'était des immigrés. Et donc, Olivier Rousteing est très talentueux, mais c'est pas le premier homme noir à la tête d'une grande maison patrimoniale française. Il y a déjà eu Oswald Boateng, qui est un Britannique d'origine ghanéenne, qui était à la tête des collections Givenchy Homme de 2003 à 2007. Patrick Robinson, qui était chez Paco Rabanne de 2005 à 2011. Manish Arora, qui était aussi chez Paco Rabanne juste l'année 2011. Et aussi Jay Jackson, le premier grand couturier noir. C'est un Afro-Américain qui arrive chez Jean-Louis Scherrer, la maison de haute couture, à seulement 24 ans en 65.
En France, quand tu es noir américain, il y a aussi une possibilité. Mais quand tu es noir français, les difficultés sont pas les mêmes, en fait. Il y a la perception aussi de... Être noir américain, c'est pas être totalement noir de la même façon, du moins.
Oui, t'es pas racisé de la même manière parce que, en fait, il y a la caution cool des États-Unis, en fait, qui joue beaucoup. Et sinon, Oswald Boateng, qui était aux collections Homme de Givenchy, pour le coup, lui, il vient du Royaume-Uni, il est d'origine ghanéenne. Mais encore une fois, c'est parce qu'il est étranger, je pense, en partie, en tout cas. Évidemment, il y a énormément de talent et de travail et de labeur là-dedans.
Mais c'est pas un noir français.
Et c'est pas un noir français. Et ça en dit long aussi, en fait. Je pense que ces trajectoires-là peuvent aussi être expliquées par ça. Enfin, faut prendre ça en compte.
Merci pour toutes ces informations. Et pourtant, aujourd'hui, une personne lambda, ou même des personnes, je pense, qui s'intéressent à la mode, n'ont pas toujours connaissance de ces grands noms.
Ah ouais, non, clairement pas. Enfin, j'en parlais avec des étudiants et des étudiants de l'IFM, l'Institut français de la mode, qui est l'une des plus prestigieuses écoles de mode de France et même du monde. Et en fait, ils connaissent pas cette histoire-là parce qu'elle est jamais présentée.
Et même dans les écoles de mode?
Non, il n'y a pas de focus particulier là-dessus. Et même sans forcément faire le focus là-dessus, c'est des noms qui ont souvent été invisibilisés, voire effacés de l'histoire de certaines maisons, en fait. Je pense en particulier à Paco Rabanne, no offense, hein, Paco, mais le groupe propriétaire de la marque aujourd'hui a tendance à glisser cette histoire sous le tapis, en fait.
Et du coup, pourquoi?
Pour plein de raisons qui leur appartiennent, hein. Je ne vais pas parler en leur nom, mais je pense que c'est des périodes aussi où ça n'a pas forcément marché économiquement pour ces maisons. Mmh. Et ça nourrit encore le trope, l'idée selon laquelle, oui, quand il y a des noirs en tête d'affiche, bah, ça marche moins bien commercialement, quoi. Mmh. Et c'est peut-être vrai, hein, dans certains cas, comme les parfums avec des écuries noires, par exemple, ou parfois les couvertures de magazines féminins avec une personne noire, ça performe moins bien, il y a moins de ventes en kiosque. Mmh. Et donc oui, mais ça, c'est sans doute à cause du racisme du grand public, quoi.
J'ai vécu toute mon enfance, et aujourd'hui encore,
à me reconnaître
à travers des personnages qui peuvent être blancs. Et ça veut dire qu'une personne blanche pourrait pas faire de schéma dans sa tête en se disant, on parle d'une histoire, de sentiments, d'humanité. Et que parce que la couleur que certaines personnes disent ne pas voir les empêche de transposer quelque chose par rapport à elle-même,
enfin, de s'identifier,
de s'identifier, ouais. Clairement.
Bah, bien sûr qu'elle le peut, mais est-ce qu'elle le veut, c'est notre histoire en fait. Enfin, il y a plein de dessins animés avec des animaux, par exemple, dans lesquels on arrive à se reconnaître, s'identifier. Enfin, j'ai grandi en regardant Petit Pied, le petit dinosaure là, ou Denver d'ailleurs, le petit dinosaure, ou bien même Nemo. Tu vois, on arrive à se reconnaître dans des poissons, des dinosaures. Des dinosaures, ça existe plus depuis combien de millénaires, genre. Et on n'arrive pas à se figurer qu'une petite fille blanche puisse s'identifier ou bien apprécier, aimer, s'épanouir avec des jouets qui représentent des enfants noirs, par exemple, ou des dessins animés qui représentent des enfants noirs, par exemple, ou asiatiques, ou que sais-je encore. Enfin, c'est hallucinant, en fait. Mais ça, c'est pas la faute des enfants, hein. C'est la faute des parents et des industriels qui font croire ça et qui nourrissent, perpétuent et renforcent des préjugés racistes, en fait. J'entends parler pour la première fois des classes préparatoires aux grandes écoles dans des filières plutôt littéraires et je me dis bon bah ok, j'en avais jamais entendu parler et tout, et je vais défendre ma croûte auprès de mes parents qui m'ont dit ok d'accord, ça, c'est assez bien pour toi, ok. Et de toute façon je passe en général, on se faisait pas trop de doutes là-dessus et peut-être que dans toute la génération de ma génération au collège, on est peut-être 5 sur une soixantaine d'élèves à être passés en général, quoi. Et
5.
Enfin, je sais pas exactement. Franchement, j'ai pas les chiffres,
voilà.
Mais...
En tout cas, c'était une toute petite
c'était
minorité.
C'était peut-être 10 sur 60, et les 10, c'était mes meilleurs potes, quoi. Enfin... Il y avait peut-être 3 classes de 3e, et il y en avait 10, quoi, qui sont passés en filière générale. Donc, là-bas, je fais ma seconde. Je suis toujours aussi nul en maths. Sinon, après, en première et en L, je m'épanouis davantage parce que j'adore les lettres. Pendant la première, il y a un incident qui peut être carrément les enfants du bruit de l'odeur. C'est mon prof d'histoire-géographie de première qui, parce que j'ai manqué 3 cours dans un trimestre, me met 2 de moyenne. Parce qu'il se base sur une seule note d'interro surprise qu'il a faite, où j'ai eu 2 sur 5, je crois. Et comme j'ai raté 2 autres évaluations parce que j'étais gravement malade, estime que c'est la seule note qui comptera pour toute ma moyenne. Et au lieu de faire 2 sur 5 et de faire en sorte que ça aille sur 20, et donc je suis nul en maths, mais il faut faire x4, je crois. Mmh, mmh. Et donc ça ferait 2 fois 4, ça ferait 8 sur 20 de moyenne. Ben, il décide qu'il me mette 2, en fait. Et donc, remise des bulletins scolaires à la fin du trimestre, ma mère vient récupérer le bulletin et... confrontation avec le prof d'histoire-géographie qui explique que en fait il estime que je sèche les cours et ma mère explique que non, que j'étais juste malade, et le prof estime que en fait je suis juste con et que c'est la note que je mérite en fait. Et ma mère, je pense par une espèce de réflexe de soumission au prof, je sais pas, explique ah oui je sais, je lui dis tout le temps, c'est pas grave. Et en fait ce 2 est resté dans mon trimestre comme ça, et dans mon bulletin, mon dossier scolaire en fait, qui compte pour entrer dans des classes préparatoires prestigieuses, bah en fait ça fait tâche, quoi. Enfin, j'avais 15 de moyenne avec un 2 en histoire-géo. J'ai quand même eu les félicitations à ce premier trimestre de première, alors avec un 2 en histoire-géographie, donc ce qui est un peu absurde, parce que j'avais quand même 15 de moyenne en fait. C'est dire à quel point ça faisait tâche. Et bref, en terminale, je fais mes propositions, mes vœux pour post-bac, en fait, pour après le bac, en proposant 5 des meilleures prépas de France, j'avoue, en classe préparatoire et tout, et j'en ai eu aucune. J'étais sur liste d'attente pour une, et en fait, je l'ai pas eu. Et j'arrête pas de penser à ce 2 en histoire-géographie qui a sans doute fait tâche, en fait. Je pense que c'est éliminatoire, en fait, pour aller chez Fénelon, Molière, La Canale et compagnie, quoi. Donc, à savoir de grandes écoles, de grandes classes préparatoires d'Hippocagne et Cannes, quoi. En tout cas, à l'époque où je passais ces concours.
Et t'as eu une explication, toi, avec cet enseignant?
Non, j'ai laissé tomber. Enfin, à quoi bon, en fait. Enfin, le prof avait une idée totalement reçue de moi. Et quand on lui a montré mes certificats médicaux qui expliquaient pourquoi j'étais absent, il a dit « Ah, bah, je savais pas et tout. » Et je lui dis « Mais en fait, si, je vous les ai fourni en fait à chacune de mes absences. Donc chacune de mes absences était justifiée et là je voulais rejustifier et vous me laissez un 2 dans ma moyenne quoi. Et non seulement il a rien changé, mais en plus c'est un conseil de classe en fait avant de remplir des bulletins. Donc tout le corps enseignant a accepté ce 2 de moyenne qui faisait complètement tâche. Enfin oui, après
du sabotage quoi clairement.
Absurde, du sabotage absurde, complètement non justifié. Enfin, mais bon, ça, je n'aurais jamais le fin mot de l'histoire, non, évidemment.
Les situations d'oppression ou de racisme, c'est que tu n'es jamais sûr, en fait, tu n'as jamais de preuves à 100% et tu es toujours un peu dans ce flou, dans ce doute. Et c'est ça qui est difficile, qui est compliqué aussi à vivre.
Oui, bien sûr, c'est un doute qui est encore une fois structurel, j'ai envie de dire. Enfin, c'est parce qu'on est conditionné à douter de nous, qu'on est conditionné à être présumé coupable, conditionné à être présumé en train de frauder pour sécher des courants douces, faire je ne sais quoi, que en fait après on finit par le croire et l'accepter et se dire bon en fait je peux rien changer à ça, ce préjugé il sera toujours au-dessus de ma tête comme une épée de Damoclès et basta quoi. Enfin et donc oui j'ai fait avec et je suis allé en fac, ce qui est pas la fin du monde mais c'est pas du tout mon projet scolaire que j'avais nourri, entretenu, chéri pendant des années. Enfin de.
Puis tu as travaillé pour aussi.
Pour lequel j'avais travaillé et pour lequel j'avais relativement le dossier qui convenait quoi. Enfin vraiment j'avais tout le temps les félicitations, j'avais une bonne moyenne et tout et en fait aussi je pense que j'ai manqué de jugeote en misant sur les meilleurs prépas de France. C'était peut-être un manque de modestie, mais je pense que c'est aussi un manque d'accompagnement aussi. En fait, des profs auraient pu m'expliquer que c'était peut-être pas très judicieux de ma part, surtout avec un 2 de moyenne. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit après coup, en fait, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est des camarades, des années plus tard, une fois qu'eux avaient fait, et elles avaient fait des hypocagnes et cagnes, qui m'ont dit, mais en fait, Anthony, c'était sûr que tu l'aurais pas parce que t'avais 2 de moyenne, en fait. C'est mm-hmm. carrément éliminatoire et tout. Mais pourquoi tes profs te l'ont pas dit? Et je me dis, bah, moi, je savais pas que mes profs pouvaient me le dire. Enfin, que je pouvais demander conseil à mes profs. Et oui, parce que eux ont été accompagnés, ouais. Eux et elles ont été accompagnés par leurs profs, qui les ont aidés à formuler leurs vœux de manière conforme à leur dossier et aux prépas qu'ils visaient, en fait. Et elles visaient. Mm-hmm. Moi, cet accompagnement, je l'ai pas eu, en fait. Enfin, j'avais cette super prof en troisième qui était tout cœur derrière moi, ma prof de latin. Et après, au lycée, j'étais complètement lâché dans la nature. Et puis, basta, quoi. Donc, c'est un concours de circonstances multifactorielles, encore une fois, qui fait que, bah, j'ai pas eu le projet scolaire que je voulais, que je nourrissais et que je me souhaitais. Mais, j'ai quand même survécu, hein. Mais c'est juste, je me dis, waouh, j'espère que ça n'arrivera pas à mes gosses ou à mes neveux et nièces ou mes adelphes, etc., quoi. Donc, voilà.
À quel moment t'as découvert que t'avais envie d'être journaliste? Et est-ce que tes parents l'ont bien pris d'ailleurs?
J'ai jamais découvert que je voulais devenir journaliste. En fait, je pense que j'ai toujours voulu plaire ou satisfaire mon entourage. Et du coup, mes parents m'ont dit « deviens prof » et j'ai dit « d'accord ». Et après, j'ai eu une prof à la fac qui m'a dit « deviens journaliste » et j'ai dit « d'accord ». Et après, j'ai un éditeur qui m'a dit « deviens attaché de presse » et j'ai dit « d'accord ». Et du coup, j'ai fait un stage aussi dans l'édition et tout. Et là, j'avoue, ça s'est mal passé.
Ouais.
Parce que c'était assistant d'attaché de presse. Mmh. Et on m'a fait une remarque qu'on m'avait déjà faite dans ma scolarité, c'était que j'avais l'air insolent. Et en fait, c'est juste qu'il était présumé de ma tête, peu importe ma tête, mon expression faciale, on me trouvait insolent. Et je passais ma vie à m'auto-corriger, à ne surtout pas bouger mes sourcils. J'envisageais même de faire du Botox pour paralyser mes sourcils.
Waouh.
Et j'avais 20 ans. Et parce qu'en fait, on me disait tout le temps « Ouais, arrête de faire ta tête insolente et tout. » Et c'était juste mon visage, en fait, naturellement et structuré comme ça. Désolé d'avoir des sourcils arqués, quoi. Mmh. Et d'avoir un regard un peu sournois. Enfin, c'est même pas mon regard qui est sournois. C'est on plaque un regard sournois sur le fait qu'il y ait des yeux relativement étroits, quoi. Enfin,
clairement, je te regarde. Enfin, personnellement, je vois rien de ni de sournois, ni d'arrogant, ni de quoi que ce soit dans ton visage. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que c'est quelque chose qui est revenu aussi et dont on a parlé avec d'autres personnes, pas toujours en enregistrement, mais de se dire en fait, c'est nos têtes qui sont dérangeants et c'est aussi peut-être nos places qui peuvent être dérangeant de se dire de pas se laisser faire ou d'exiger une place et de pas courber les chines, ça peut être aussi une façon d'être perçu comme tu disais arrogant, reste à ta place, tu vois, enfin c'est des mots qui reviennent toujours, reste à ta place, ne sois pas arrogant, ne te, comment dire ça, pas te valoriser mais sois pas vindicative, c'est juste peut-être nous dans un espace qui est dérangeant et on dissèque le moindre mouvement pour trouver des excuses, en fait, au fait que les gens ne supportent pas toujours qu'on soit là et qu'on ne s'efface pas.
Oui, c'est clair. C'est déjà une façon de remettre en doute notre présence, remettre en cause notre présence et, oui, la souligner comme intruse. Mmh.
Et agressive.
Et agressive par défaut, par définition, par notre physique même, en fait. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, à partir de là, j'ai compris que c'était mort. Mm-hmm. Du coup, je me suis éloignée de ça. Et comme j'avais déjà fait un stage dans le journalisme et qu'on m'avait dit, de toute façon, c'était trop bien, t'étais trop bien, continue là-dedans. Je me suis dit, bon, OK, why not? Et, et voilà, donc... Juste, on m'a dit, fais ça. Et j'ai dit, d'accord. Et je l'ai fait. Et une fois en Master 2, bah, pendant ce Master 2, j'étais en alternance au Figaro. Ça s'est relativement bien passé. Enfin, c'était le Figaro quand même, faut pas déconner. Mais, mais c'était une très bonne école en tout cas. Et une fois que t'as survécu à ça, tu peux survivre à peu près partout. Donc voilà, je suis devenu journaliste. Et donc, il n'y a pas eu de moment eureka, genre, ah, j'adore ce que je fais, c'est ma vocation. Non, en fait, je crois pas avoir de vocation. À l'heure actuelle, je suis même pas sûr d'avoir trouvé ma vocation et j'ai arrêté de chercher, en fait.
Donc là, pour l'instant, tu suis juste.
Ouais, voilà. Go with the flow.
D'accord.
Et c'est OK, en fait. Ouais. C'est OK de pas trouver forcément de réponse ou de vocation. Enfin, c'est OK de se questionner toute sa vie. C'est OK de pas avoir de réponse arrêtée, définie. Aujourd'hui, je suis journaliste. Peut-être que demain, je serai ébéniste. Et c'est très bien aussi, en fait. Et voilà. Enfin, vous mettez pas trop la pression, surtout quand on est jeune, en fait. Enfin, vraiment l'orientation on demande en troisième ou même avant tu veux faire quoi comme métier pour le reste de tes jours, bah c'est un peu abusé, non? Surtout que nous on a connu que des crises. Enfin, moi je suis né en 93, je suis né dans la crise, je connais que la crise, j'ai que galéré. Et tous les économistes s'accordent à dire que on est la première génération à gagner moins que nos parents, et ça c'est chaud patate, quoi. Enfin, désolé de parler comme un vieux, mais genre une fois que t'as compris ça, c'est bon. Enfin, t'as plus peur de la précarité que de peur de pas avoir trouvé ta vocation. Et juste, genre, survivre, c'est déjà cool, quoi. Enfin, voilà.
Puis c'est vrai que, enfin, c'est super la pression aussi de se dire en troisième au lycée déjà trouver ce que t'as envie de faire, et dans un monde qui change, qui est tout le temps en mouvement, tu peux pas avoir la même carrière non plus que des générations. Enfin, passé, on va dire, ou y rester dans un métier pour du début jusqu'à la fin, enfin.
Oui, voilà. Peut-être que nos parents et nos grands-parents restaient dans une même entreprise du début à la fin de leur carrière. Peut-être que nous, déjà, d'une, on n'a pas forcément envie, et de deux, on n'a pas forcément la possibilité, ne serait-ce que matérielle et physique, enfin, et économique, de le faire. Enfin, les entreprises aussi sont en crise parfois. Et nous, enfin, en tout cas, les jeunes générations, je pense que il y a une tendance à glamouriser dans les médias et nos aînés et les classes politiques, le fait d'entreprendre, de multiplier les projets, d'être un slasher, d'avoir plusieurs carrières à la fois et tout. Mais en fait, cette glamourisation, elle cache surtout, c'est un mauvais cache-misère à la précarité, en fait. La précarité sociale et économique qui fait qu'on est obligé, en fait, d'être hyperactif, de multiplier les projets pour ne serait-ce que payer notre loyer. Donc, parfois, il y a des gens qui me disent, ah, Anthony, tu fais plein de trucs et tout. Et je suis là, bah ouais, je suis hyperactif parce que je suis hyper précaire, en fait. En fait, ouais, j'ai pas le choix. Et donc, voilà, enfin, je galère. C'est pour ça que je fais plein de trucs. Et voilà, là j'ai signé un CDI et j'arrive pas à décrocher mes side jobs parce que je me dis, mon Dieu, on sait jamais. Et j'ai une espèce de peur panique du manque parce que j'ai connu que ça, en fait. Enfin, voilà. Ça dépend du caractère des gens et tout. Il y a des gens qui s'en sortent très bien, qui ont un esprit d'aventure et tout. Mais moi, je suis un grand stressé de la life. Chaque seconde de stress est une seconde d'espérance de vie en moins pour moi. En fait, je stresse beaucoup trop. Si je suis mince, c'est l'anxiété, hein. Et voilà. Et ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est OK de vouloir entreprendre plein de trucs et tout, mais demandez-vous juste, est-ce que vous voulez le faire pour vous ou pour répondre à une injonction sociale, à l'hyper-productivité et au capitalisme et au blanc-triarcat?
Comment ça se passe, toi, en tant que personne noire, au niveau du milieu professionnel?
Ah, bah, je pense que après avoir été confronté au racisme intériorisé de ma famille, j'ai vraiment découvert le racisme structurel plus largement dans l'espace public, une fois que j'étais adulte et diplômé, ou dès mes premiers stages, en fait, où oui, les remarques quant à mon insolence supposée par défaut, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille et tout. Ensuite, dans d'autres expériences, bah, dans des rédactions, on me faisait comprendre que, ouais, je n'avais pas le physique de l'emploi ou des trucs comme ça, genre, alors que...
Comment ça?
Enfin, bah, ça n'a jamais été plus explicite que ça, hein, mais on te fait comprendre que ton physique n'est pas un serial titre du média. Donc, imaginons un média fictif qui s'appellerait Monsieur. On va te dire, ton physique n'est pas très Monsieur.
Et c'est quoi un physique Monsieur?
Bah, c'est un physique qui correspond au Monsieur qu'on met en couverture, par exemple. Et voilà.
Et du coup, tu répondais à quoi?
Bah, tu réponds pas, tu courbes les chines et t'avances. Et tu surperformes Donc, t'es sur CAP en permanence. Tu sais jamais, en fait, si un jour tu mets un jean, bah, peut-être qu'on va te faire confondre avec le vigile ou le mec de l'informatique ou des choses comme ça, quoi. Enfin,
faire banlieue.
Ouais, que tu vas urbaniser l'image du magazine. Et voilà, des trucs comme ça, quoi. Après, j'ai évolué dans la presse féminine de luxe. Donc, au début de ma carrière, donc ça a un peu joué hein, dans ces présupposés racistes, mais maintenant, ça a un peu en train de changer parce que le luxe essaye de récupérer une autre manne financière qui est la jeunesse, la diversité, l'inclusion, tout ça. Mm-hmm. C'est devient bankable. Après le greenwashing, après le feminist washing, place au social washing, où la justice sociale devient le nouveau terrain sur lequel se placer et faire des arrangements marketing. Mm-hmm. Tu fais avec... Et tu te prends les remarques et puis tu souris encore plus, en fait. Enfin, comme dirait Michelle Obama, when they go low, we go high.
Mm-hmm. Non, mais clairement.
Mais ça encore, injonction à l'exemplarité. Hein. C'est fatigant.
L'exemplarité et le fait aussi d'être toujours au niveau, au top niveau de l'excellence, en fait. L'injonction à l'excellence aussi, en fait, derrière tout ça.
Ouais, c'est aussi pour ça qu'on parle de Black Excellence. Mm-hmm. Ok, c'est trop cool d'être trop beau, trop belle, trop diplômée, trop riche et trop célèbre, machin, quand on parle de Black Excellence, ce qui n'est pas mon cas. Hein. Mm-hmm. Mais...
De quoi ? Qu'est-ce qui n'est pas ton cas ?
Trop beau, trop riche, trop diplômé, je sais pas quoi, là.
Non, mais j'ai dit lequel de tous.
Ah, aucun. Mais en tout cas, ce que j'allais dire, c'est que cette Black Excellence qu'on glamourise, qu'on célèbre et tout, c'est super, hein, si ça peut nous motiver, nous tirer vers le haut,
c'est
cool.
Épuisant.
C'est épuisant, d'une part, et d'autre part, enfin, est-ce qu'on se demande si ces personnes-là, elles ont fait tout ça, est-ce qu'elles sont heureuses à la fin de la journée ? Est-ce que d'ailleurs, elles sont... Enfin, traiter à la hauteur de leur excellence face à d'autres personnes qui peuvent se contenter d'être médiocres afin d'être célébrées. Enfin, quand je vois des carrières comme Simon Biles ou Surya Bonaly ou d'autres athlètes de très haut niveau qui n'ont jamais été respectés à la hauteur de leur niveau, par exemple, ou Simon, encore, c'est en train de changer, mais ou Serena Williams, en fait, ou d'autres... Là, je pense au sport parce que... Ouais, critiquer tout le temps. Je pense au sport parce que c'est des performances physiques qui sont chronométrées, scorées. Enfin, il y a des chiffres, en fait, très factuels. Parce que là où en politique ou dans la culture en général, c'est difficile de dire bon bah est-ce que un tel est meilleur que un tel ou une telle, c'est compliqué tu sais. Mais dans le sport, la première c'est la première point. Et Dieu sait que Serena Williams, sa position d'athlète ultra couronnée, ultra championne en fait est questionnée. Dans le tennis, Simon Biles dans la gymnastique, enfin Surya Bonaly dans le patinage artistique, c'est des femmes extraordinaires qui ont été contestées. Dénié, invisibilisé par l'histoire, et c'est horrible en fait. Et je te parle d'histoire, mais c'est le présent encore. Malgré l'excellence, ouais. Donc t'auras beau briller, même dans ton excellence, tu peux être contesté.
C'est juste incroyable la façon dont elles sont encore une fois mises sous loupe, hein, plus que les autres, on va dire, le
Bien
moindre
sûr.
Mouvement, la moindre petite chose. En fait,
Taux d'hormones, jusqu'à leur taux d'hormones qui sont scrutés pour voir si elles sécréteraient pas davantage de testostérone que la moyenne, par exemple, des choses comme ça. Genre, on les soupçonne de tout, de dopage, d'être intersexe, des choses comme ça. Et on leur laisse même pas le droit de vivre et de briller et d'être juste hyper forte, en fait. Et puissante et inspirante.
Sur le dos des femmes noires, en plus, hein, oui, clairement.
Évidemment. Et d'ailleurs, en plus, là, je les cite, et c'est les exceptions qui confirment la règle, en fait. Enfin, c'est valable pour ces athlètes au plus haut niveau, mais c'est aussi valable pour des meufs qui donnent tout à la défense ou dans d'autres quartiers d'affaires ou même dans une petite entreprise en région. Enfin, toutes ces femmes-là, je suis sûr qu'elles galèrent aussi. Enfin, il n'y a pas besoin d'être au top level pour galérer hein, et être remis en doute dans nos compétences. Enfin, c'est ça qui est triste, en fait. C'est que peu importe le niveau, on sera remis en doute dans nos compétences. On sera soit trop bon, soit pas assez, mais on nous laissera jamais tranquille, en fait. C'est toujours trop ou pas assez.
En fait, on est juste dérangeant.
Oui, spoiler. Pretends to be shocked.
Et tu vois ça comment, cette évolution, en fait, de notre société aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour pouvoir avancer dans cette société? Et aussi, quelle est ta vision de notre futur, en fait, en tant que personne racisée?
Non, mais en fait, récemment, j'étais extrêmement déprimée. Depuis juin 2020, après la mort de George Floyd, même si je l'étais avant, hein, enfin, mais juste en voyant Assa Traoré redescendre dans la rue pour obtenir justice et vérité pour son frère Adama Traoré, qui est mort entre les mains de la gendarmerie de Persan en 2016, si ma mémoire est bonne. Ça fait 5 ans qu'elle lutte, et ça n'a pas bougé d'un iota. C'est même elle qui se retrouve devant les tribunaux pour diffamation, des choses comme ça, et c'est alarmant et gravissime. Et en fait, ça me rappelle Elle a écrit d'abord un premier livre qui s'appelle Lettre à Damas, et ça m'a rappelé un autre bouquin que j'avais adoré, The Fire Next Time, de James Baldwin, qui est un auteur afro-américain. Et dans cet ouvrage...
La prochaine fois le feu.
Voilà, La prochaine fois le feu. Disponible sur l'e-shop de...
Ouais,
les enfants du bruit de l'auteur. Placement de produit. c'était pas prémédité. Hein. Et dans ce livre, il écrit... une lettre à son neveu, en fait, pour lui expliquer ce que c'est que le racisme et à quel point est-ce qu'il devra s'hyper corriger pour éviter d'être tué par la police. Et 50 ans après, il y a un autre auteur qui a écrit un livre semblable, cette fois à son fils. Le livre est Between the World and Me, qui a été traduit en français par Une colère noire, de Ta-Nehisi Coates. C'est aussi disponible sur la librairie?
Oui.
Oh, wow.
Wow. T'as vu, tu as cité tous les... c'est bien, Anthony.
Eh bien, ce livre-là, 50 ans plus tard, répète à peu près la même chose, en fait. Et Lettre à Adama de Assa Traoré, de l'autre côté de l'Atlantique, répète à peu près la même chose. Et là, je viens d'avoir un neveu qui vient de naître, et j'ai envie de lui répéter la même chose, en fait. Parce qu'il est noir en France hexagonale, et ça aurait été la même chose s'il était noir aux États-Unis, et peut-être dans d'autres sociétés occidentales, en fait. Donc voilà, c'est assez déprimant. Mais tu me posais la question pour donner de l'espoir aux gens, donc je pense que ce qui...
Je te coupe juste deux secondes.
Je suis pas obligé d'avoir de l'espoir.
Non, non, mais t'as peur pour ton neveu, justement, c'est quelque chose qui t'inquiète, tu en parles à ta sœur?
Je pense que ma sœur s'inquiète déjà très bien toute seule, enfin parce qu'elle nous a vus. Mon frère et moi grandir, et mon frère, depuis qu'il est tout petit... Enfin, pas depuis tout petit, mais depuis qu'il a genre 12-13 ans, il a déjà été contrôlé plusieurs fois par la police, de manière plus ou moins véhémente, de manière plus ou moins violente. Ma mère est déjà allée récupérer au poste plusieurs fois, alors qu'il avait rien fait, enfin, parfois avec des bleus suspects, donc c'est bon quoi, on connaît. Y a un truc qui m'a relativement protégé, je crois, je présume, mais c'est ma queerness, en fait, le fait que je sois un jeune homme queer et que ça se voit à 3000 km. Tu penses
que ça t'a protégé?
Protéger, le mot est fort, mais je pense que ça m'a rendu perceptible dans l'espace public comme étant non menaçant, ou en tout cas menaçant différemment, en fait. Genre une menace par rapport à l'hétéro-patriarcat plutôt que le blanc-triarcat. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais ça va être... Les mamies vont pas serrer leur sac contre elles quand elles vont me voir parce qu'elles vont voir que je suis queer. Enfin, une fois qu'elles vont comprendre que je suis queer, elles vont arrêter de serrer leur sac contre elles. Les mamies dans la rue.
D'accord.
Mais. Et les policiers, ils vont juste se dire: ah mon Dieu, une tapette, mais ne répétez pas ça chez vous. Mais elles vont pas se dire: ah mon Dieu, il va commettre un délit, quoi. Je pense que ça m'a relativement protégé à ce niveau-là, ouais. Et encore protégé, le mot est fort, encore une fois, je pense que je suis un autre type de menace, quoi. Ce qui me donne de l'espoir, c'est de me rendre compte que c'est de plus en plus difficile d'effacer les traces. C'est que les traces de notre histoire, les traces de nos luttes, les traces de nos victoires. Et justement, quand je vous parlais des designers noirs qui ont été invisibilisés par l'histoire, bah là, je vous les rappelle. Est-ce que vous allez les rappeler à vos enfants, ou vos frères, ou vos sœurs, ou vos adelphes, ou les gens autour de vous qui apprécient la mode, leur dire « Hey, tu sais quoi, il y avait aussi machin et machin. » Et c'est cool. Et, ou alors les podcasts aussi, ça aide, ou les médias aussi indépendants qui se lancent de plus en plus. Tout ça, c'est des traces, en fait. Et à force de traces, à force de liens, à force de tissage, bah, on va créer une autre toile, en fait.
Oui, donc on va terminer sur ce côté, à force, en fait, de création, à force de traces, on va créer notre toile. Je te remercie, Anthony. Merci beaucoup de nous avoir partagé toutes ces analyses. On reconnaît le journaliste en toi. Et je te remercie aussi d'avoir partagé des moments de vie avec nous.
Merci à toi, merci au podcast, merci beaucoup. Et laisser 5 étoiles, ça rappelle podcast, non?
Mais oui, mais clairement, il faut laisser 5 étoiles. Non, mais toi, tu le dis trop gentiment. Moi, je dis, je menace les gens. Laisse 5 étoiles sur Apple Podcast. Non, voilà. Bah écoutez, merci à vous en tout cas.
Prenez soin de vous.
Vous venez d'écouter Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le. Partagez autour de vous. Suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.